Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette table ronde intitulée « Droits fondamentaux à Genève, le potentiel de notre Constitution pour les faire avancer ». Je vous souhaite la bienvenue au nom du réseau Regard, réseau de Genève pour les activités relatives aux droits et libertés, au nom du CODAP, Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme, et puis de FIAN Suisse pour le droit à l'alimentation. Nous sommes ici ce soir, il y aurait dû avoir un quatrième partenariat avec le FIFDH, qui a été annulé pour cause de coronavirus, et qui fait qu'on a aussi une petite assemblée ce soir, mais avec des gens intéressés et connaisseurs du sujet. Un petit rappel sanitaire avant de commencer. On a mis une liste de présence à l'entrée. Veillez à simplement laisser votre nom si d'aventure on devait vous recontacter après cette séance. Et puis, évidemment, je crois qu'il y a assez d'espace dans la salle pour vous mettre à distance les uns des autres si nécessaire. Donc, en tout cas, ça devrait aller, je crois. Pourquoi Regard, le CODAP et FIAN Suisse ont organisé cette séance ? Tout d'abord parce que, au mois d'avril 2019, nous avons remis aux autorités genevoises, canton et ville, un rapport qui est une contribution à une évaluation périodique indépendante des droits fondamentaux à Genève. Ce rapport collectif a réuni les contributions de 27 associations et fêtières basées à Genève et propose une analyse des évolutions à la fois positives et négatives en matière de droits fondamentaux à Genève. Donc chaque fois, une évaluation, en tout cas un recensement des politiques qui ont eu un effet bénéfique pour la mise en œuvre des droits fondamentaux, et puis d'autre part une critique des différentes mesures et politiques qui ont été mises et qui sont négatives du point de vue des associations participantes, bien sûr. Également, ce rapport propose droit par droit des recommandations à l'attention des législateurs, des administrations, parfois même du niveau fédéral quand il est concerné. Voilà. Donc vous avez avec ce rapport en fait un outil de référence qui présente à la fois l'évolution sur 5 ans depuis 2013 de la mise en œuvre des droits fondamentaux à Genève. Et puis ça vous permet d'avoir en un seul document une vision globale de la situation des droits fondamentaux dans notre canton. Je ne vais pas rentrer dans le détail du rapport, simplement pour vous dire que vous retrouvez une grande partie des droits fondamentaux examinés. Il y aura des informations sur des discriminations ou violences faites à l'égard des femmes. Il y aura discrimination également à l'égard des personnes LGBT ou des personnes handicapées. Vous y trouverez des informations sur le droit à un environnement sain, qui est une particularité de la Constitution genevoise, qu'on ne retrouve, à ma connaissance, pas ailleurs en Suisse. Dans les autres constitutions cantonales, bienvenue. Et puis, vous y trouverez aussi des informations sur le droit à l'alimentation, le droit au logement, par exemple. Ce rapport, on en a quelques copies imprimées ici pour consultation. Sinon, vous le trouvez sur le site de FIAN Suisse, sous la section « Notre travail », puis la section « Thème ». Et là, vous trouvez non seulement le rapport, mais également un résumé de toutes les démarches qui ont été effectuées jusqu'à maintenant. Maintenant, le deuxième point que je voulais vous présenter en préambule à ce panel, avant de passer la parole à nos invités, c'était peut-être le contexte ou pourquoi ce rapport sur la situation des droits fondamentaux à Genève a été rédigé par la société civile et remis aux autorités. J'aimerais rappeler qu'en 2012, il y a eu deux événements assez concomitant et assez intéressant pour notre canton. D'une part, la suppression de l'Office des droits humains, la décision de sa suppression en tout cas, qui a été effective début 2013, et puis qui a en fait enlevé une sorte d'organe qui était en charge de la coordination et du suivi des questions de droits fondamentaux, de droits humains dans le canton de Genève. D'une part, et puis d'autre part, l'adoption d'une nouvelle constitution en 2012 qui portait en son sein un catalogue de droits fondamentaux très riche. J'ai mentionné le droit à l'environnement sain, mais il y a aussi également plusieurs dispositions qui vont plus loin que ce que propose notre Constitution fédérale. Donc un outil vraiment intéressant en termes de promotion des droits fondamentaux. Et puis, dans cette Constitution, il y a un article 42 qui a retenu toute notre attention au niveau de la société civile et qui demande qu'une évaluation périodique indépendante des droits fondamentaux soit faite. Le temps passant, les années passant après 2013, on s'est rendu compte que cette démarche n'était pas effectuée par les autorités. Et partant de ce constat, eh bien, on a dit, bon, on s'y met, on essaye de voir à quoi ça pourrait ressembler. Et le résultat, en fait, de ce travail de coordination, d'analyse avec ces 27 associations effetières, eh bien, le résultat, c'est ce rapport que vous avez ici sous les yeux. Il faut savoir que cette évaluation périodique indépendante, si elle venait à être mise en place, serait quelque chose d'unique en Suisse. Il n'y a pas d'autre mécanisme d'évaluation des droits fondamentaux comparable à ce jour. Enfin, et je conclurai par là, c'est une opportunité pour Genève d'avoir un véritable débat public sur la question des droits fondamentaux, dans leur ensemble et tous les droits, pas seulement certains. Parce qu'ils sont les garants de la dignité humaine pour toute personne dans notre canton, mais aussi parce que ça nous permettrait de questionner la responsabilité et la coordination dans cette mise en œuvre des droits fondamentaux pour qu'elle soit effective. Je passe maintenant la parole à nos invités, parce que le panel de ce soir et la discussion de ce soir va s'intéresser à la question de savoir qui et comment on pourrait mettre en place cette évaluation périodique indépendante. Et je laisse la parole à Stéphane Bussard, journaliste au Temps, qui va modérer le débat ce soir. Merci beaucoup.
Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être en présence de cette société civile très active. Et c'est vrai que j'ai suivi un peu le rapport que vous avez déposé auprès des autorités cantonales. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé parce que couvre pas mal le Conseil des droits de l'homme qui a un instrument un peu similaire, l'examen périodique universel. C'est vrai que ça m'a interpellé de voir une proposition de mettre en place un instrument un peu comparable au niveau cantonal. Je vais laisser, cela dit, les panélistes en débattre. Donc, je vais vous présenter tout d'abord avec Cyril Mirazzi, député socialiste au Grand Conseil, vice-président de FEDGAF, défendant les droits des personnes handicapées et à ce titre contributeur au rapport publié par la société civile l'année dernière. Et tenant d'une solution basée sur la constitution d'une commission cantonale d'experts pour mener à bien l'examen d'évaluation périodique indépendante. On a aussi Patricia Schultz, qui est chercheuse senior associée à l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, et aussi ancienne directrice du Bureau fédéral de l'égalité hommes-femmes et ancienne experte au comité de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Elle est tenante donc d'une solution à travers la Cour des comptes. Léa Winter, co-coordinatrice du rapport de la société civile sur la situation des droits fondamentaux à Genève, et aussi co-coordinatrice du rapport de la société civile suisse au comité de l'ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels. Omar Azabi, conseiller municipal vert dans la ville de Genève, juriste internationaliste et porteur d'un projet d'État généraux des droits humains. Et puis Frédéric Varonne, magistrat suppléant de la Cour des comptes et professeur à l'Université de Genève. Voilà un peu les panélistes et je vais leur donner à chacun 5 minutes pour un peu exposer leur vue. Et après, bien sûr, il y aura d'autres questions, des questions du public un peu après. Et donc, je vais commencer peut-être par M. Mizrahi. Le Grand Conseil, effectivement, et la Commission des droits de la personne a annoncé l'année dernière qu'ils allaient effectivement rédiger un projet de loi pour mettre en œuvre ce fameux article 42. Où en est-on? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on a pris au sérieux justement cette tâche qui est effectivement de rédiger un projet de loi? Où en est-on?
Je prends quand même le micro, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais volontiers. Merci beaucoup, merci déjà aux personnes qui ont organisé aujourd'hui cette rencontre, cette réunion. Merci aussi pour tout le travail en amont, avec ce travail de coordination, avec ce rapport auquel j'ai modestement participé avec la FEGAF, qui est la Fédération Genevoise des Associations de Personnes Handicapées. Et quand je milite pas ou quand je travaille pas sur ces questions des droits des personnes handicapées, ben je siège effectivement à la commission des droits de la personne du Grand Conseil, et avec Diego Esteban qui est présent aussi ici. Et donc pour faire le point donc sur le travail de commission, c'est vrai qu'on avait commencé quand le rapport a été déposé. Je crois que c'était en avril ou quelque chose de l'année passée, quelque chose comme ça. On avait déjà commencé les travaux sur cette question de l'évaluation des droits fondamentaux. Donc on a d'abord effectivement suivi tout ce qui s'est passé autour de la suppression de l'Office des droits humains. On a étudié une motion à ce sujet-là et on a proposé une motion de commission qui demandait à ce qu'il y ait un point qui soit fait sur comment ces tâches qui étaient auparavant effectuées par l'Office des droits humains était dorénavant traité au sein de l'État. Je dois dire, pour résumer, qu'on n'a pas vraiment eu de réponse satisfaisante. Et par ailleurs, on a aussi constaté que le Conseil d'État n'avait pas véritablement apporté de réponse sur l'évaluation des droits fondamentaux. On a vu que les réponses qu'on a malgré tout demandées de la part du gouvernement variaient avec le temps. Hein. Le gouvernement nous répondait tantôt que c'était à la commission parlementaire qu'on est de faire ce travail, ce qui nous semblait assez absurde, tantôt que finalement c'était les organes de l'ONU qui faisaient ce travail et que ça suffisait. Enfin voilà, toutes sortes d'excuses pour finalement ne rien faire, de sorte que la commission, comme elle en a la possibilité, a décidé de se saisir elle-même cette question et de faire des propositions. Alors, où on en est, donc on a fait d'abord toute une phase où on a, je ne peux pas évidemment parler du détail, puisque la règle, ça reste, tant qu'on n'a pas fini nos travaux, la règle de la confidentialité, ce qui est des fois un peu étrange, mais enfin voilà, c'est comme ça. Donc on a fait un travail préparatoire pour comprendre la problématique, voir les différentes options qui étaient ouvertes à nous, et aussi examiner... faire des auditions en gros pour avoir aussi des avis extérieurs sur la question. Depuis avril, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup bougé, parce que la particularité de cette commission, c'est qu'on est actif sur plusieurs fronts et qu'on ne peut pas se consacrer entièrement à la réflexion méta, parce qu'on a à la fois des projets de motion ou projets de loi qui nous viennent du Grand Conseil qu'on doit traiter, et puis également d'autres questions sur lesquelles on s'est saisi et qu'on a souhaité examiner. Je vous mentionne quelques exemples. Le but, c'est pas de parler du reste des travaux, mais juste pour vous expliquer pourquoi tout ça prend un petit peu de temps. On avait notamment toute une série d'objets sur les droits des personnes LGBT, sur lesquels on a dû se pencher, également sur la problématique des personnes intersexes. On a eu aussi toute une thématique autour des droits fondamentaux dans le système de protection de l'enfance à Genève, dont vous avez sûrement entendu un peu parler dans la presse, donc avec ces questions d'expertise, avec, enfin voilà, différentes problématiques qui font que effectivement on n'a pas pu avancer comme on l'aurait voulu sur cette question de l'évaluation. Mais je pense que maintenant, je vous dis pas ça juste parce qu'on se réunit ce soir, mais ça montre aussi que c'est bien de maintenir la pression. Et en même temps, je pense qu'en fonction de nos travaux sur les autres sujets, je pense qu'on a maintenant une fenêtre à nouveau pour aller de l'avant et boucler. Je pense que ça va nous prendre encore quelques mois probablement, en amenant véritablement une proposition. Pour ma part, je serais favorable effectivement à une proposition plutôt d'échelon législatif, parce qu'on voit bien que le gouvernement ne va pas bouger, il ne l'a pas fait jusqu'à présent, on ne voit pas pourquoi il le ferait maintenant. Donc je pense que plutôt qu'une motion, il faut vraiment qu'on amène un projet de loi avec une solution que j'espère Donc moi je prône effectivement un comité, je ne sais pas si j'ai dépassé mes 5 minutes, il faut me dire vraiment la notion du temps. Donc je prône plutôt un comité, alors expert, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas plutôt effectivement de personnes qui sont des spécialistes des différents droits fondamentaux. Et puis donc plutôt sur le modèle de ce qu'on connaît avec les organes des traités au sein de l'ONU. Je suis pas non plus pour dire qu'il faut aucun lien avec la Cour des comptes, mais je suis convaincu que c'est une évaluation qui est diffère de celle de la Cour des comptes. Le texte constitutionnel déjà le laisse entendre parce que c'est vraiment deux choses différentes qui se situent à des endroits différents de la Constitution, et aussi le mode de travail. On voit comment on travaille la Cour des comptes, vraiment sur des aspects thématiques par politique publique, avec des analyses qui sont beaucoup plus larges que des questions de droits fondamentaux. Et au contraire, le processus d'évaluation de droits fondamentaux, pour moi, doit être un processus global et pas par thématique. C'est important qu'on ait une évaluation globale. Pour le reste, je prône plutôt qu'on laisse une certaine marge de manœuvre aussi à cet organe pour s'organiser ensuite lui-même, pour voir s'il souhaite, de quelle façon il souhaite travailler, s'il souhaite faire par roulement les différents droits, ou s'il souhaite faire un processus avec rapport contre rapport, comme on le connaît dans les organes de traité. Je pense qu'il faut lui laisser une part de marge de manœuvre qui est aussi garant de l'indépendance de ce comité d'experts.
Juste un mot, vous parlez de la commission des droits de la personne du Grand Conseil, effectivement, qui a un calendrier assez chargé, visiblement, mais qu'est-ce qui explique ces résistances, finalement? Parce que, est-ce qu'on en fait une priorité ou non? Est-ce que la commission elle-même ne peut pas prendre l'initiative d'imposer ça tout en haut de l'agenda? Je ne sais pas. Quelles sont un peu les raisons de ces résistances, finalement?
Non, je pense qu'il n'y a pas de résistance au niveau de la commission. Il y avait des résistances au niveau du Conseil d'État Enfin, on le voit dans toute sa politique, il ne souhaite pas mettre en œuvre une politique globale en matière de droits humains. Je crois que c'est important de voir ça. Il n'y a pas vraiment de répondant. Il n'y a plus de répondant depuis la suppression de l'Office des droits humains au sein de l'État. On a demandé plusieurs fois voilà, quel était le département responsable. On a eu droit à plusieurs réponses. Alors, on voit qu'il y a des conseils d'État qui s'intéressent à cette problématique. On voit qu'il y a un projet de loi qui peine à sortir, dont on nous dit depuis plusieurs mois qu'il va sortir sur l'égalité entre hommes et femmes et les droits des personnes LGBT, qui est en préparation au département des finances. On sait que il y a aussi un conseil d'État en charge du département de la cohésion sociale qui s'intéresse aussi à ces questions sous l'angle des politiques publiques qui sont les siennes, notamment celles du handicap. Mais on voit quand même que ces problématiques, elles sont un peu réparties au sein des départements et qu'il n'y a pas une volonté de retrouver cette cohérence. Il n'y a pas eu non plus la volonté, telle que certains auraient pu le souhaiter, certaines, de rattacher cette question des droits de l'homme à la présidence du Conseil d'État. Il n'y a pas eu du tout ça. Donc voilà, donc à un moment donné, on a fait une croix dessus, on s'est dit, bon, ben, nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme commission? Et puis, c'est clair qu'au niveau de l'organisation de l'administration, c'est difficile pour le Grand Conseil de dire au gouvernement comment il doit s'organiser. Par contre, bah, ce qu'on peut faire, nous, Grand Conseil, c'est des lois. Donc, a priori, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette direction-là. Et puis, bah, après, vraiment, bah, je pense qu'on peut aussi faire notre mea culpa comme commission. Je pense qu'il y a vraiment des aléas de traitement aussi, de délai de traitement de certains sujets. On répond aussi à certaines urgences. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de souffrance, par exemple au niveau du système de protection de l'enfance, de liens familiaux qui sont coupés, de gens qui ressentent ça très durement. Donc c'est vrai que on est aussi un peu, je dois dire, un peu des fois l'objet des lobbyistes au sens peut-être noble, externe, qui nous mettent une pression plus ou moins forte pour qu'on avance sur telle et telle thématique. Puis en même temps, on est aussi, on a l'ordre du jour du Grand Conseil qui nous amène des objets qu'on se sent effectivement aussi obligé de traiter. Voilà.
Merci.
Mea culpa pour notre part.
Omar Azabi, d'un point de vue municipal, comment vous voyez toute la question de la mise en œuvre de cet article 42? Qu'est-ce qui peut être fait au niveau municipal? Quel est un peu le regard que vous jetez sur cette problématique aujourd'hui? Alors, cet article 42 n'est toujours pas mis en œuvre des années après l'entrée en vigueur de la Constitution.
Merci aux organisateurs déjà pour l'invitation. Donc, ce qu'on peut constater au municipal, en fait, c'est que la violation de ces droits fondamentaux, elle se constate à première vue et dès le départ au niveau municipal. Il y a eu deux crises cette année qui ont fait la une des médias et qui constituent en fait des violations claires des droits fondamentaux. La crise du sans-abrisme sur la pérennité des instituts qui gèrent le sans-abrisme en ville de Genève notamment, et les questions de financement entre le canton et la municipalité, et la crise des mineurs non accompagnés. Et ce sont deux thématiques qui aujourd'hui en fait on répond à ces thématiques-là de manière très ponctuelle. Alors en ville de Genève, il existe un service qui est rattaché à la commission des finances, qui s'appelle le service de l'agenda 21, qui a été mis en place en effet pour mettre en avant les politiques publiques qui sont liées, qui a trait à la question des droits fondamentaux. Le problème qui existe avec ce service, c'est qu'aujourd'hui, il marche de manière ponctuelle, sans forcément une vision, une coordination qui nous permette au niveau municipal d'avoir une analyse globale. Et c'est là où je rejoins Monsieur Mizrahi, c'est qu'en effet, si on veut, on veut aller de l'avant sur la question des droits fondamentaux, il faut qu'on ait une vision globale et qu'on adapte des politiques publiques qui répondent de manière prioritaire aux violations qui sont les plus récurrentes et les plus graves. Et à ce niveau-là, donc, on s'est dit en ville de Genève avec les Verts, en consultant évidemment la députation cantonale, comment peut-on intégrer nos engagements internationaux au niveau fédéral en matière de politique publique au niveau municipal. Et donc, c'est là qu'est venu, en discutant avec les différents niveaux, l'idée de non pas mettre en place les états généraux, les états généraux des droits humains. On est allé un peu plus loin avec un projet de délibération qui va en fait concrétiser en tant que tel cet examen, cette évaluation périodique indépendante, mais au niveau municipal. Pour revenir juste sur l'historique, il faut savoir que la ville de Genève en fait est assez pionnière en matière de droits fondamentaux et en matière de prévention et de lutte, surtout sur des campagnes publicitaires, sur des questions de financement, notamment du centre d'écoute contre le racisme, etc., etc. Et que voilà, on signe souvent, on s'engage avec des réseaux internationaux qui travaillent sur les questions de droits fondamentaux. En 2007, il y a eu le Genève Ville Amie des Aînés. Vous avez eu l'organisation aussi des jeux pour les personnes en situation de handicap. Voilà, il y a eu différentes initiatives qui ont été prises. Et donc là, l'idée, pour traduire en fait cette évaluation périodique indépendante qui serait unique en Suisse en fait au niveau municipal, c'est de mettre en place une commission ad hoc du conseil municipal qui serait composée de manière aussi innovante par et des conseils municipaux et la société civile ainsi que l'agenda 21. Afin qu'on puisse confronter directement en fait le retour du terrain et l'évaluation qui est faite au niveau de la société civile avec l'engagement des politiques publiques en ville de Genève. Et l'idée, en fait, je vais pas rentrer dans les détails en tant que tel parce qu'on aura l'occasion d'en reparler plus longuement dans les médias et puis au conseil municipal, mais l'idée, si vous voulez, c'est que les compétences de la ville sont les compétences du conseil municipal sont extrêmement limitées. Une des plus grandes compétences du conseil municipal, c'est le budget. C'est un délibératif qui décide du budget. Et quand vous votez le budget, en fait, vous votez des priorités budgétaires et des priorités en matière de politique publique. Alors là, l'idée, c'est d'avoir une commission ad hoc qui ferait l'évaluation globale de l'ensemble des droits fondamentaux, qui serait divisée en 5 paquets, si vous voulez, de droits fondamentaux, pour que chaque année, sur chacune des thématiques, on puisse établir des priorités en matière de politique publique, notamment dans le cadre de l'évaluation et du vote du budget.
Quand le rapport a été présenté aux autorités l'année dernière, quelle a été un peu la réaction des autorités municipales? Est-ce qu'elles se sentent concernées? Est-ce qu'elles ont envie d'apporter une contribution? Je ne sais pas, bon, si on est au niveau municipal, mais pas nous cantonal, mais disons, on se sentait interpellés.
Alors, on est dans une ambiance municipale très spéciale, où la droite reproche souvent à la gauche de s'intéresser à des questions dont elle n'a pas la compétence. Alors évidemment, quand ce rapport est sorti, l'écho au niveau municipal, il a été absent. Il n'y a absolument pas eu d'écho parce qu'on estime que cette question-là est d'une compétence cantonale. Sauf que quand il s'agit de mettre en œuvre les droits humains et quand il s'agit de les constater, c'est l'échelon municipal qui intervient au premier niveau. Et donc là, l'idée d'ouvrir le débat sur cette commission ad hoc, c'est de dire qu'aujourd'hui, oui, la ville de Genève a un rôle à jouer en matière internationale, en matière de plaidoyer, pour défendre des causes qui sont directement ou indirectement liées à la Genève internationale, mais en plus de ça, qu'elle doit être exemplaire et mettre en place une coordination au niveau de ses politiques publiques pour s'assurer qu'on réponde aux violations des droits fondamentaux les plus graves.
Merci. Léa Winter, j'aimerais vous entendre un peu sur toute la question de la contribution de la société civile. dans l'exemple que je mentionnais tout à l'heure au Conseil des droits de l'homme, l'examen périodique universel, donc, sur lequel est calquée un peu l'évaluation indépendante, périodique indépendante, la société civile joue un rôle très important. Elle arrive avec un grand rapport et les ONG reposent beaucoup là-dessus, mais même les États sont très sensibles à ces rapports. Et je voulais savoir un peu, vous, comment vous voyez l'implication de la société civile dans la mise en œuvre de cet article 42. Quel rôle peut-elle jouer à quel niveau je vous donne la parole.
Merci beaucoup.
Voilà, la société civile a un rôle central dans ce processus. C'est vraiment nous qui avons initié cette discussion. On voit que ça a de la peine à bouger au niveau des autorités qui sont responsables et qui devraient mettre en œuvre notre constitution. Donc voilà, moi je suis là vraiment pour dire ça, que ben effectivement on s'est inspiré de tout le travail de plaidoyer droit humain au niveau international, c'est ce qui a donné lieu à cet article 42. C'est vrai qu'on est beaucoup dans la société civile à être à la fois impliqué dans ce plaidoyer international vu qu'on est à Genève, mais aussi dans des associations très locales qui travaillent auprès des personnes dans des situations les plus précaires ou qui sont victimes de violations de leurs droits. Donc on a vraiment cette expertise à Genève qui est vraiment remarquable. 27 organisations qui ont participé à ce rapport, qui ont des choses à dire, qui connaissent les cas, qui savent ce qui se passe sur le terrain, qui peuvent informer des experts, qui doivent informer des experts. Donc c'est vraiment ce rôle central de la société civile dans ce processus que je viens rappeler. Nous, on est impatients de voir la forme que va prendre cette évaluation. On aimerait participer. On aimerait vraiment être partie prenante de cette évaluation. Et puis non seulement les associations qui ont cette expertise, mais aussi les victimes. Pour nous, c'est très important qu'il y ait justement aussi, un peu comme dans le système des Nations Unies, système de communication où des personnes victimes de leurs droits pourraient livrer leurs témoignages auprès de ces experts évaluateurs, parce que nous, on l'a bien vu, quand on a fait ce rapport, on n'a pas été exhaustif. On s'est basé sur notre réseau, on a contacter le plus d'associations qu'on connaissait. Déjà, il y en a plein qui n'ont pas pu participer parce que on n'a pas de budget, on est tous vraiment à ramer dans le domaine. Je rappelle au passage que le travail des droits humains en Suisse est très peu soutenu, qu'on est tous, ben voilà, on a fait ça bénévolement, ce soir on fait ça sans budget, enfin, c'est quand même pas tout simple. Et du coup, on n'a pas pu avoir, on n'a pas pu analyser tous les droits déjà. Et après, on a vu encore des gens qui nous ont contactés. Ah, mais pourquoi vous nous aviez pas inclus dans le processus? On a aussi des choses à dire. Donc voilà, il faut faire ça de manière beaucoup plus systématique, avec beaucoup plus de moyens que ce qu'on a eu. Et il faut donner cette place aux victimes qui pourraient faire remonter des violations dont on n'a pas forcément connaissance, dont le public n'est pas forcément informé. Et il faudrait qu'il y ait ce lien direct des victimes auprès des experts. Ça, pour nous, c'est aussi très important. Donc participatif, que vraiment toutes les parties et aussi les académiques, les experts, les juristes soient là. Que ce soit, c'est vrai qu'une commission uniquement politique qui serait influencé aussi par les clivages politiques qu'on connaît, ce serait dommageable pour ce travail vraiment qu'on doit mener.
Au niveau international, la société civile traverse une période difficile. On sait que les États maintenant ont tendance à limiter l'espace d'expression de la société civile. On le constate au Conseil des droits de l'homme, on réduit l'espace qui leur est dédié. Les organes de traité, effectivement, c'est pas évident, notamment de défendre tout ça. Je voulais savoir au niveau cantonal, la société civile, est-ce qu'elle est prise au sérieux? Est-ce que vous avez un interlocuteur régulier auquel vous pouvez vous confiez, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que la société civile est prise vraiment au sérieux par les autorités cantonales?
Bon,
ça a été déjà dit ce soir plusieurs fois, en perdant l'Office des droits humains, on a perdu vraiment le relais qui était, enfin, c'était vraiment là pour ça, quoi, pour faire ce lien entre ce qui se passait sur le terrain et les autorités. Donc là, effectivement, il y a une grande lacune. Quand on a initié ce processus avec Cédric et les autres associations, on a été auditionné par la Commission des droits de la personne qui, en plus, avait été, certains de ses membres avaient été sollicités pour faire leur regard, donc ça savait qu'on était en train de faire ça. Donc on a été auditionné pour présenter ce qu'on essayait de faire. Et là, effectivement, c'est vrai qu'on a quand même eu ce soutien-là et puis cette participation qu'on a à lancer le rapport avec cet engagement de la commission de travailler sur un projet de loi, de prendre les devants sur ce sujet-là. C'est une commission qui peut justement s'auto-saisir de sujets. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'on voit un soutien et puis une façon de faire bouger les choses à un niveau institutionnel.
Très bien. Patricia Schulz, vous-même, donc, vous avez une grande expérience internationale. Quels sont, selon vous, les éléments clés de l'évaluation périodique indépendante? Alors, je sais que vous êtes plutôt favorable à une option cour des comptes et tout ça, mais quels sont les éléments qui doivent figurer dans cet instrument de l'évaluation périodique indépendante?
Merci, merci aussi pour l'invitation et tout d'abord un hommage à la société civile. J'ai travaillé comme militante dans ma jeunesse et j'ai beaucoup collaboré avec la société civile au plan local et ensuite national et international. Et c'est vraiment le sel de la terre. Et c'est sur ces expériences-là que je me base. J'ai donc participé à des processus d'évaluation au niveau national pour la loi sur l'égalité. Et puis, le Bureau fédéral de l'égalité était responsable du rapport initial et second rapport de la Suisse auprès du comité de l'ONU sur les discriminations à l'égard des femmes. Et durant les 8 ans où j'y ai siégé, j'ai participé à l'examen de 180 États. Donc, ça donne une idée aussi de ce qui existe dans différents pays. Donc, moi, je voudrais vous emmener dans 12 critères qui me semble indispensable, qui seraient les éléments clés pour moi. Le premier, c'est la régularité dans la périodicité. Ça, c'est un problème énorme pour les organes de traité. Les États ne viennent pas assez souvent. Et puis ici, si on prend la situation genevoise, la Constitution est en vigueur depuis déjà des années. L'article 42 est toujours sans application. Or, il faut, si on veut avancer, si on veut qu'une évaluation soit utile, il faut qu'elle soit régulière pour qu'on puisse construire. Ce sont des processus cycliques. C'est pas juste une photo un jour et une photo dans 10 ans, mais c'est vraiment sur ce phénomène cyclique que ça peut marcher. Deuxièmement, il faut l'expertise des personnes chargées de l'évaluation périodique indépendante et leur disponibilité. Donc, pour moi, l'évaluation, c'est vraiment une affaire de spécialistes qui sont formés et qui travaillent en continu. Et Cyril, tu le mentionnais tout à l'heure, votre commission n'a pas eu le temps est saisie de plein d'autres sujets. Vous n'avancez pas au rythme auquel vous voudriez. Et puis surtout, je pense que quand il y a beaucoup de sujets à examiner, c'est extrêmement difficile de le faire si on ne le fait pas en continu. Or, dans la Constitution, le titre 2 sur les droits fondamentaux comporte 43 articles, dont 42 traitent de droit et l'article 42 lui-même prévoit l'évaluation de tous les autres droits. Troisième point, l'indépendance et l'impartialité du mécanisme chargé de l'évaluation indépendante périodique. Quatrième, il faut assurer une mémoire institutionnelle pour garantir une cohérence à long terme. Or ça, c'est très difficile avec des commissions dont les membres changent tout le temps. Je peux vous assurer que ça, je l'ai vécu dans le comité de l'ONU. Tous les 2 ans, il y a des élections et parfois, c'est presque la moitié des membres qui sont renouvelés ou c'est un tiers. Ça peut changer tout à fait et on oublie. Alors, il faut un secrétariat qui se souvient, mais même je vais dire, il faut vraiment des gens qui sont là pendant longtemps. Cinquième point, il faut la transparence des rapports et des documents à leur appui, sauf cas exceptionnels. Sixième, un niveau élevé du mécanisme chargé de l'évaluation périodique indépendante. Mon très grand souci, c'est de ne pas créer un mécanisme qui permette de dire « Ah oui, bah, les droits fondamentaux, finalement, c'est moins important que le reste, puisqu'on peut le donner, les donner à une petite commission qui siège de temps en temps, qui a peu de moyens, etc. » Donc là, c'est un... je relis le 6 avec le 7. Pour moi, c'est assurer le même niveau hiérarchique, même type de procédure et compétences pour l'examen du respect des droits fondamentaux contenus dans notre Constitution que pour l'examen de la légalité des activités des autorités étatiques, la régularité des comptes et le bon emploi des fonds publics. Donc ça, j'ai vraiment le sentiment que si on crée des mécanismes distincts, dont la, un nouveau mécanisme distinct de la Cour des comptes, on va nécessairement créer cette disparité de niveau et de ressources. Et pour moi, on ne peut pas faire moins pour les droits fondamentaux. C'est un parallélisme des formes et des compétences. Le huitième point, et vous l'avez mentionné déjà plusieurs d'entre vous, les ressources financières pour que le mécanisme puisse faire son travail dans des conditions adéquates. Le neuvième, assurer la participation de la société civile aux travaux du mécanisme pour l'information des membres de ce mécanisme, pour la documentation, pour l'incitation, pour que ça bouge, pour qu'il y ait un suivi. Donc là, il faut vraiment trouver les clés de cette collaboration. Et puis aussi, dixième point, assurer l'appropriation des recommandations et en fait du processus aussi par les autorités concernées par la mise en œuvre en les associant au processus de l'évaluation. Et ça, moi, je l'ai vu quand je travaillais dans l'administration fédérale. C'est l'administration fédérale qui a les données et qui les fournit aux membres du Parlement. Quand on a préparé le rapport initial de la Suisse, on a regardé ce qui se faisait dans l'ensemble des 7 départements fédéraux et on a consulté les cantons. Et c'est comme membre, c'est l'administration, c'est une partie qui arrive à atteindre les données. Et pour moi, il faut un mécanisme qui puisse dire à cette administration détentrice de tellement de savoir, maintenant vous nous fournissez les données et vous n'avez pas le droit de les refuser. Donc ça, c'est ce que la Cour des comptes a le droit de faire. Le 11e point, c'est d'arriver à créer une culture d'un processus itératif donc qui revienne toujours. L'évaluation, pour moi, et ça je l'ai vu dans le comité CEDEF, c'est pas un jugement qu'on porte. C'est une incitation à faire le mieux possible et à faire toujours mieux. Donc à partir d'une base et remonter et remonter et remonter. Donc toujours mieux mettre en œuvre, mieux respecter, mieux assurer que la Constitution est vraiment vivante au niveau de ce canton, au niveau cantonal, au niveau municipal, bien sûr. Et puis le 12e point, c'est d'assurer le suivi des recommandations. Et un des grands avantages de la Cour des comptes, c'est qu'elle procède à des suivis annuels de ces recommandations, peut-être parfois pas annuels, mais en tout cas, elle a une possibilité de vraiment vérifier que ce qu'elle propose soit mis en œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je peux le dire à contrario, mon expérience au niveau international, les organes de traité n'ont pas de possibilité réelle d'aller vérifier au fur et à mesure que leurs recommandations sont mises en œuvre. Et c'est très, très dommage parce qu'on se retrouve des fois 8 ou 10 ans ou plus après avec des recommandations qui ne sont toujours pas mises en œuvre. Donc il faut un mécanisme qui a la puissance d'assurer cet examen tout le temps. Et puis un dernier point juridique, non, avant-dernier point juridique, des recommandations pour la Cour des comptes, c'est pareil que pour les organes de traité, c'est ce qu'on appelle en droit du soft law. C'est pas des règles qui sont impératives pour l'État, mais malgré tout, elles ont une très très grande validité dans la mesure où ici, il s'agit d'appliquer la Constitution, donc qui est le texte supérieur de tout l'ensemble de l'ordre juridique du canton. Et pour moi, j'aimerais un organe
comme je l'ai dit, de ce niveau de la Cour des comptes, ou la Cour des comptes elle-même, qui puisse accorder, qui puisse émettre une interprétation authentique de la Constitution avec l'ensemble des partenaires qui viendraient en appui, et notamment la société civile. Et dernier point, c'était en écoutant Cyril que j'y ai pensé, je pense qu'il ne faut pas se laisser arrêter par les lacunes de la Constitution. Si j'ai bien compris, l'article 42, il a été rajouté un peu au dernier moment. Alors le fait qu'il soit placé dans un autre titre que la Cour des comptes, pour moi, c'est pas un argument vraiment très solide, parce que c'était une idée géniale de penser à cette évaluation périodique. Et puis malheureusement, on n'a pas pensé à ce moment-là. Constituant a fait que la moitié du chemin, il a eu l'idée, mais il ne s'est pas dit comment la réaliser. Donc pour moi, je ne me laisserai pas arrêter à un argument de nature de technique juridique pour dire que on ne pourrait pas étendre les compétences de la Cour des comptes pour permettre de réaliser la mise en œuvre prévue par l'article 42. Voilà.
Permettez-moi peut-être de revenir sur vos points 10 et 11. Effectivement, il faut impliquer le plus d'acteurs possible, parce que c'est eux qui détiennent les informations. Et puis le vos 11e point, c'est un processus, c'est pas de dénoncer absolument, c'est de coopérer. Et c'est vrai que ça, c'est une manière de faire qui ressemble furieusement à l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où finalement ce qu'on constate, c'est l'importance, c'est notamment cette mobilisation des États qui doivent produire leur examen périodique, leur rapport pour l'examen périodique universel. Et je dois dire que pas mal d'analystes estiment que cette mobilisation nationale est extrêmement importante. Comment vous voyez précisément cette mobilisation cantonale, je dirais, pour mettre en œuvre l'article 42.
Mais moi, je trouve qu'elle a déjà, je veux dire, on a déjà un très très bel exemple de la mobilisation cantonale grâce au rapport que la société civile a fait. J'ai vraiment beaucoup admiré ce travail, mais ça peut pas rester à ce niveau-là. Je veux dire, ça ne peut pas rester comme ça. Moi, j'étais à la séance de présentation et je regrette de dire ici haut et fort que les deux représentants du canton et de la ville ont reçu le document en main propre et ils sont partis. Donc, ça veut dire quelque chose sur l'intérêt. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment arriver à un effet de mobilisation pour arriver à faire bouger à ce niveau-là.
Et au niveau de la culture de coopération au niveau des droits de l'homme, vous avez dit, voilà, c'est pas du naming and shaming, comme on dit. Est-ce que vous avez l'impression que cette culture-là, elle est déjà présente, ou dans le sens que quand on voit les droits de l'homme, c'est soit une violation, soit c'est pas une violation, et puis on est très critique ou on ne l'est pas. Est-ce que vous avez l'impression que cet esprit coopératif, il existe déjà ou il doit encore être instillé, disons ?
Mais je pense qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus de coopération, et je pense qu'il y a besoin de beaucoup plus de coopération à l'intérieur des autorités cantonales. Et probablement municipale aussi. Moi, j'ai travaillé 16 ans dans l'administration fédérale et un de mes bonheurs, ça a été que là, il y a une culture de coopération entre les départements et entre les offices fédéraux. Ce qui veut dire qu'on partage, je ne vais pas vous dire que c'était merveilleux tout le temps, mais on partage l'information d'une façon honnête et compétente. Et on écoute ce que les autres disent. Alors, on perd souvent. Pour le Bureau fédéral de l'égalité, on a fait beaucoup de propositions, on n'a pas toujours gagné, ça, c'est pas un secret. Mais au moins, il y a cette ouverture. Genève, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup plus en silo des départements, chacun son territoire, chacun sa féodalité avec son seigneur en haut et les féodaux en dessous. Et ça, ça permet pas d'avancer. Malheureusement.
On n'en a pas discuté ce soir, mais il y a un projet de loi au niveau fédéral qui, on appelle ça les principes de Paris. Donc, c'est les Nations Unies qui ont mis en place des principes pour que les États, en fait, disposent d'un institut. Enfin, on appelle ça un institut national de droits humains qui permettrait, en fait, de faire cet examen-là. Ce projet de loi aujourd'hui, il a été mise en œuvre. En tout cas, il y a un fonds d'1 million de francs. Vous voyez comme c'est ridicule. C'est 1 million de francs qui a été mis à disposition de la part de la Confédération. Et ça a été matérialisé en décembre 2019. Donc, c'est une question aussi de château de cartes, si vous voulez. Si, au niveau fédéral, on ne matérialise pas ce projet de loi et qu'on met du temps à le mettre en place, au niveau de l'article 42, au niveau du canton de Genève, on met du temps à mettre en place, et bien évidemment, ça a des répercussions directement au niveau municipal et sur les victimes des violations.
Oui, c'est un serpent de mer, l'histoire de l'Institution nationale des droits de l'homme en Suisse. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le côté ridicule de la somme. Il y a aussi un problème institutionnel qui est absurde. Cette institution serait rattachée, le cas échéant, on ne sait pas encore, hein, c'est un projet de loi, serait rattachée, comme il y a actuellement un centre de compétences sur les droits humains au niveau fédéral qui existe depuis plusieurs années et dont le statut a été prolongé parce qu'on n'arrivait pas à faire une loi pour créer vraiment cette institution d'une manière correcte. Mais actuellement, on ne sait même pas où elle serait attachée. Et alors, si on veut lui garantir qu'elle peut fonctionner, il faut lui garantir un rattachement institutionnel qui est clair et précis. C'est ou bien une université, ou bien c'est une institution de droit public autonome, par exemple, c'est deux possibilités. Et puis, le règlement de l'institution doit garantir son autonomie l'impartialité et un mécanisme de désignation des membres qui répondent à ces fameux principes de Paris qui demandent que la société civile soit associée, que ce ne soit pas que des gens d'un seul parti politique, par exemple. Enfin, il y a toutes sortes de critères. Mais je pense que le but de l'institution nationale serait fort différent de ce que l'évaluation périodique indépendante peut apporter. Pour moi, c'est vraiment c'est deux choses différentes, véritablement. Et c'est en ça que Genève est tellement innovateur, effectivement, avec ça. Ben parce que le tel que je le verrais, moi, cet examen périodique indépendant permet de prendre grande séquence par grande séquence avec des ressources vraiment efficaces. Je veux dire, la Cour des comptes, elle dispose d'un personnel qui est très, très bien formé et qui soutient les membres, les magistrats, les magistrates de la Cour des comptes. Tel que conçu actuellement, la future institution nationale des droits humains n'aura jamais les moyens de faire ça d'une façon aussi efficace que ce que la Cour des comptes pourrait le faire pour Genève.
Je m'excuse d'intervenir, mais ça appelle beaucoup de remarques. Enfin, je suis très sensible à tout ce qui a été dit sur la Cour des comptes. Je pense qu'une première remarque qu'il faut faire, c'est que, en tout cas, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut. L'important, c'est qu'on mette quelque chose sur pied. Et j'aimerais pas, finalement, que tout s'écroule parce qu'on a voulu faire quelque chose de trop ambitieux. Alors, c'est vrai, c'est une discussion qu'on peut avoir. Peut-être qu'il faut demander plus pour obtenir moins. Moi, mon analyse politique actuelle, c'est qu'on a de telles résistances au niveau du Conseil d'État que si on arrive à un truc complètement frontal, en demandant beaucoup de moyens, je caricature un peu, je ne dis pas qu'il faut faire un truc sans moyens, mais je pense que si on force un petit peu trop le trait, je pense qu'on va multiplier les résistances. Si on arrive avec quelque chose qui est raisonnable, qui n'effraie pas trop à ce stade, je pense que les résistances n'auront pas beaucoup de prise. En tout cas, j'ai le sentiment que dans le champ politique, personne ne va remettre en cause. C'est comme d'autres éléments de la Constitution. Ben, soit on les enlève, soit on les met en œuvre. Et ça, il y a un consensus là autour. Mais si on est trop ambitieux, on va avoir, je pense, des problèmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais ça rejoint sur ce qu'a dit Léa Winter tout à l'heure sur les communications. Alors, si l'idée, c'est d'avoir la possibilité que des individus vraiment témoignent et apportent des éléments d'information à cet organe, quel qu'il soit, d'ailleurs, si c'est la Cour des comptes, c'est évident. La réponse, à mon avis, c'est bien sûr oui. Si l'idée, c'est d'avoir vraiment un processus de plainte, comme ça se passe au niveau des organes des traités, À mon avis, là, on va avoir des problèmes d'architecture parce que on a quand même un contrôle de constitutionnalité qui est fait par tous les organes de l'État, les autorités étatiques, qui doit être fait aussi par les tribunaux. Et si on ajoute encore un contrôle de constitutionnalité supplémentaire, je pense que ça va complètement alourdir les choses et qu'on n'arrivera à rien. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et puis, le troisième et dernier élément que je voulais dire, j'entends tout ce qui est dit sur la Cour des comptes, mais le problème quand même de la Cour des comptes, il est à mon avis double. Le premier problème, c'est que c'est pas seulement dans la Constitution que l'évaluation des politiques publiques et l'évaluation des droits fondamentaux sont deux choses différentes, mais c'est aussi dans la réalité. C'est-à-dire qu'on voit comment l'évaluation des politiques publiques est faite par la Cour des comptes et est bien faite. Moi, je fais partie des fans du travail de la Cour des comptes. Je le dis pas parce qu'il y a un membre qui est présent ici, mais du reste, voilà, je m'en suis jamais caché. Mais c'est des auditeurs, c'est des personnes qui font un certain type d'évaluation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas en faire un autre, mais je pense qu'il y aurait tout un processus pour amener dans cette Cour des comptes des compétences supplémentaires qui actuellement n'y sont pas. C'est une méthode de travail qui, à mon avis, est fondamentalement différente, et je pense que peut-être la Cour des comptes serait à l'aise de faire des analyses par politique publique. Par exemple, on prend le droit à un environnement sain, puis on regarde ce qu'il en est fait. Autant faire une analyse globale, ça paraît un peu délicat. Et puis le dernier élément que je mentionnerai, c'est la participation de la société civile. Quand même, dans les organes des traités, on a des experts qui sont très diversifiés, qui viennent souvent de la société civile. Et moi, ma crainte, c'est que si avec la Cour des comptes, on n'aura pas du tout ça. On aura uniquement des gens qui sont, je ne vais pas dire des... comprenez-moi pas mal, des fonctionnaires, je ne le dis pas au sens négatif, évidemment, mais on aura vraiment des salariés de l'évaluation, et je trouve que c'est moins bon que d'avoir des personnes qui ont les pieds dans le terrain et puis qui peuvent en même temps représenter une spécialité en matière de droits humains, qui est le modèle qu'on trouve dans les organes des traités. Et moi, j'ai peur sur comment on va amener toutes ces compétences diverses au sein de d'une instance où il y a un très petit nombre de juges. Voilà.
Avant de vous redonner la parole, je reviens à vous peut-être tout de suite, mais vu qu'on parle beaucoup de la Cour des comptes, j'aimerais quand même donner la parole à l'interlocuteur qui la connaît le mieux de l'intérieur, c'est Frédéric Varonne, magistrat supérieur à la Cour des comptes. Alors moi, vous avez entendu, est-ce que justement, finalement, vouloir confier cette tâche de l'évaluation périodique indépendante, ce serait à la Cour des comptes, ce serait quelque chose de trop ambitieux, selon M. Mizrahi. Quel est un peu votre sentiment? Dans quelle mesure la Cour des comptes pourrait s'emparer d'un tel mandat? Et de quelle manière? Et avec quelle pertinence, finalement?
Ok, merci bien de l'invitation. Et merci bien, Mme Schulz, d'avoir fait l'étalage de tous les critères qu'il fallait remplir. J'ai fait le même exercice, sauf que j'avais deux colonnes. Celles auxquelles on peut répondre en tant que Cour des comptes et celles auxquelles on ne peut pas répondre. Et les problèmes auxquels on fait face, si on devait recevoir ce mandat que nous ne demandons pas, c'est la périodicité. Donc faire de manière récurrente, non seulement une évaluation globale, mais de manière périodique, c'est quelque chose qui nous pèse parce que ça bloque des ressources. On a déjà eu quelques lois, par exemple sur le chèque annuel de formation, qui nous a imposé de faire de manière régulière une évaluation. Au bout de la troisième évaluation, on est un tout petit peu, c'est enregistré, démotivé à faire cette évaluation, mais c'est une obligation légale. Il n'y a plus grand-chose à apprendre pour améliorer la conduite de cette politique publique. Donc cette notion de périodicité qui semble essentielle pour avoir un processus cycliste et amorcer les processus d'apprentissage, je l'entends bien, je crois qu'il est essentiel, mais je doute que la Cour des comptes puisse s'engager sur cette régularité dans la périodicité, comme vous signalez. Deuxièmement, les ressources financières. La Cour des comptes n'a pas énormément de ressources financières, même si elle produit pas mal de rapports. Et je vous ai trouvé, si ce n'est désobligeant, du moins assez dur, avec le petit million du Centre suisse de compétences pour les droits humains. Un petit million, excusez-moi, en matière d'évaluation, ça ne se trouve pas souvent. Et le Centre suisse de compétences des droits humains rassemble quand même les universités de Neuchâtel, Pascal Mahon pour tout ce qui est migration, de Berne, Jörg Künzli pour tout ce qui est police et justice à Berne, de Philippe Jaffé pour ce qui est la politique de l'enfance à Genève, pour les droits humains et l'économie, Christine Kaufmann, etc. Et donc il y a une kyrielle d'experts qui est déjà dans ce centre suisse de compétences pour les droits humains qu'on peut mobiliser et qui aurait 1 million. Si vous voulez rajouter 1 million à la Cour des comptes, ça fera plaisir à son budget. Ce n'est pas ce à quoi nous a habitué le Grand Conseil. Et peut-être que ce million pourrait permettre d'engager des gens, effectivement, qui feraient une évaluation des politiques publiques sectorielles, non pas à l'aune de la légalité, de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience, du bon usage des biens publics, mais du degré de réalisation des droits humains. Mais en l'état, les ressources dont nous disposons ne sont pas suffisantes pour pouvoir répondre à ce mandat éventuel de faire cette évaluation permanente. L'implication de la société civile, c'est aussi quelque chose auquel, pour l'instant, les magistrats et magistrates en place ou les évaluatrices et évaluateurs ne sont pas forcément très habitués. Je ne dis pas que ça ne peut pas changer, mais ce n'est pas quelque chose, pour l'instant, sur lequel nous avons une grande expérience. Sur les autres points qui seraient des atouts indéniables, l'indépendance, on ne peut pas nous opposer à le secret de fonction, même pas la police, même pas certains conseillers administratifs ou conseillers d'État. Il y a certaines compétences en méthodologie d'évaluation, il y a une publicité des rapports, il y a le suivi des recommandations, qui est souvent un moment clé pour faire un état des lieux et faire avancer les choses. Je partage votre point de vue que ça serait éventuellement des atouts. Donc en conclusion, et c'est pour ça que j'ai fait ce petit détour par le Centre suisse de compétences pour les droits humains, et peut-être contrairement aux autres panélistes, je ne pense pas qu'il faille une institution. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une pluralité d'organes qui se chargent de faire cette évaluation. Une fois la Cour des comptes, qu'on peut saisir, même de manière anonyme au travers de son service BKMS, sur un sujet particulier, une fois éventuellement une commission, une fois une université, une fois un consultant privé. Et ça pourrait être le rôle de la société civile ensuite de consolider tout ça, ou de fixer les priorités, ou alors d'un organe administratif.
Merci beaucoup. Oui, je voulais d'abord répondre à Cyril. Je crois qu'il a pensé que je voulais aller beaucoup plus loin que ce que je voulais aller. Pour moi, il ne serait pas question dans le modèle que je préférerais que la Cour des comptes reçoive des plaintes individuelles et soit en mesure de les juger. Dans mon idée, elle serait en mesure de recevoir des informations sur des violations de la Constitution et elle pourrait étudier s'il y a eu violation et faire des rapports éventuellement, mais pas s'emparer, pas créer une nouvelle instance judiciaire. Donc ça, c'est vraiment un point que je pense très très important. Maintenant, sur le Centre suisse de compétences, quelques mots. L'Autriche a 100 personnes dans son institution nationale des droits humains. Donc c'est là où je dis que pour moi c'est choquant que la Suisse, qu'on n'arrive pas après tant d'années de tentatives de mettre en place une institution nationale de droits humains, qu'on vienne avec un budget aussi faible et qu'on vienne avec une structure institutionnelle aussi peu fixée dont je pense qu'elle n'aura pas la... Je ne pense pas que la Suisse aura une institution reconnue. Il y a 3 catégories dans les institutions nationales de droits humains. La A, c'est celle qui correspond à tous les critères les plus excellents, disons. B, c'est déjà en dessous. Ça veut dire que soit votre budget est trop bas, votre indépendance n'est pas assurée, l'impartialité, on en doute un peu, ou bien les budgets trop bas, ou les compétences sont trop limitées. Donc, je ne suis pas du tout sûre que la future institution suisse répondra vraiment à la catégorie A, et ça m'inquiète, parce que ce serait très moche comme message si la Suisse, si son institution n'est pas à ce niveau suffisant. Maintenant, pour revenir alors à vous, et excusez mon arrogance d'avoir pensé que on pourrait avoir une cour. Moi, j'avais regardé le chapitre 4 du titre 4 et je m'étais dit qu'on pourrait... c'est toujours amusant de faire...
du droit fiction comme ça, mais de rajouter, de se dire, bon, si on lui donnait ses compétences, est-ce qu'il faudrait l'appeler Cour des droits humains et des comptes ou Cour des comptes et des droits humains? Et puis voir comment on peut changer les articles 128, 129, 130 et 131 pour exprimer dans la Constitution cette nouvelle compétence éventuelle que la Cour des comptes recevrait. Et là où je vous rejoins tout à fait, Monsieur Varone, c'est à propos de la périodicité. Je vois bien le risque. Mais aussi, on travaille avec des méthodes modernes. Et par exemple, quand on revient plusieurs fois sur une politique et puis qu'il y a eu des améliorations après le premier examen, et puis encore des améliorations après le deuxième examen, après, ça devient beaucoup plus léger. Où on peut se dire, ok, ben ça c'est un domaine, on le laisse tranquille. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps. Donc ce serait aussi de faire des choix. Et moi aussi je suis une fan de la Cour des comptes et je lis vos rapports, j'ai été sur votre site, j'ai regardé toutes les vidéos sur les présentations de rapports et je trouve que là il y a une possibilité d'efficacité qui est vraiment très très élevée. Et encore une fois, je ne mets en aucun doute le désir d'arriver à un résultat. Mais je suis pas sûre. Enfin, je veux dire, c'est une question d'appréciation politique. Moi, je suis pas dans la politique active, donc c'est évidemment aux membres du Grand Conseil, respectivement aux membres du municipal, de savoir comment vous voyez les choses. Mais je trouve qu'il faut quand même essayer de dire il y a dans la Constitution une exigence qui n'est pas du tout remplie. C'est l'article 42.
Oui, peut-être partager mon expérience parce que j'ai travaillé au bureau régional du Haut Commissariat pour les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest et j'ai travaillé sur l'INDH béninois et l'INDH sénégalais. Et en la matière, vous avez deux exemples qui sont ni le Bénin ni le Sénégal. Le Bénin est au statut B, à l'époque était au statut B, et le Sénégal était carrément au statut C, inexistante. Et il y a deux pays qui sont modèles en la matière, il y a le Mexique et l'Uruguay qui ont des statuts A. Pour voir le Mexique et l'Uruguay, ces institutions nationales de droits de l'homme, elles ont des rangs ministériels. C'est-à-dire que les commissaires qui sont membres de ces institutions-là, ils ont un rang de ministre. Ce qui fait que l'ambition que vous voulez donner en matière de respect des droits humains et de la responsabilité de l'État quand il y a violation, elle est là. Elle va de pair avec les moyens que vous donnez. Donc quand en Suisse, on se limite à un centre de compétences, je ne remets pas en cause la compétence du centre, en l'occurrence, c'est des experts qui vont y travailler. Mais aujourd'hui, si on veut aller avec une INDH qui soit exemplaire en la matière, puisque la Suisse, on doit être exemplaire à ce niveau-là, il faut que ce soit carrément un centre, enfin, il faut que ça ait un rang ministériel et que, carrément, ça puisse être un centre une réception des plaintes, ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, même au Bénin et au Sénégal, ce sont des INDH dans lesquels vous pouvez aller, justement, porter plainte contre l'État pour telle ou telle violation. Et je pense qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Alors, c'est difficile d'avoir les majorités politiques pour arriver à ce genre de projet ambitieux. Mais si on veut se donner les moyens, en tout cas en matière de droits humains, si on veut se donner les moyens de les faire respecter, il faut donner des contraintes suffisantes à ce type d'organe.
Je vais bientôt donner la parole au public parce qu'il y a certainement des questions, mais peut-être
oui.
Une dernière intervention.
Alors, j'ai bien compris, mais je remercie Patricia d'avoir fait cette clarification. Pour moi, c'est vraiment deux questions différentes. La question des plaintes versus communication, je le dirais comme ça. Et puis, la question de savoir qui se charge de cette évaluation. Et j'ai bien compris que tu avais fait la distinction. Simplement, je répondais en même temps à une intervention de Léa d'avant sur cette question des plaintes. Et pour moi, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus avec Patricia, il faut vraiment qu'on se limite à la communication de renseignements parce qu'on ne peut pas faire un deuxième processus de plainte parallèle à ce qui existe déjà devant les juridictions ordinaires. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et ça, je pense que vraiment, alors si on va dans le sens de dire qu'on fait un deuxième système parallèle, je pense qu'on va se casser les dents. Et à mon avis, à juste titre, moi, je ne pourrais pas défendre ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le qui fait l'évaluation. Et ça, c'est très différent. Pour moi, j'aurais aucun problème si à la fin, il y a un consensus qui devait se dessiner pour dire que c'est la Cour des comptes. Moi, j'ai, mon Dieu, très bien, allons-y, allons de l'avant et avançons. Et je pense que c'est mieux qu'il y ait quelque chose plutôt qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais je pense que le problème qu'on va avoir, c'est un problème de masse critique. On est quand même à Genève, et au-delà de la question de la faisabilité politique, il y a quand même des questions qui se posent, qu'on couvre un bassin de population de 500 000 habitants. Comment on peut avoir des gens qui sont rémunérés à plein temps et qui sont suffisamment spécialisés dans les différents domaines? Comment est-ce qu'on peut imaginer au sein de la Cour des comptes d'avoir à la fois des spécialistes des droits LGBT, des spécialistes des droits, alors peut-être hommes-femmes, oui, peut-être on y arrive, mais LGBT, personnes handicapées, j'en oublie beaucoup, mais je veux dire, je pense que, alors en tout cas politiquement, c'est simplement pas réaliste. Tandis que d'avoir ces compétences dans une commission officielle qui est une structure qu'on connaît à Genève, je pense que ça, c'est possible et c'est vendable. Et je pense que, en tout cas, moi, quelque chose que je défendrais plutôt, ce serait d'avoir une sorte de lien organique. Ça veut dire qu'au lieu que cette commission officielle, comme toutes les autres commissions officielles, soit rattachée au département présidentiel ou à je sais pas trop quel autre département, parce qu'en fait, on ne sait pas qui s'occupe des droits humains dans ce canton, eh bien, pourquoi pas prévoir le rattachement à la Cour des comptes. Et comme ça, ça permet d'avoir à la fois l'infrastructure, le secrétariat, les techniques d'évaluation, etc. Et en même temps, d'avoir ces compétences externes. Voilà. Alors, c'est un modèle peut-être un peu mixte, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je serais assez à l'aise à défendre. Ben, je pense que ça apporterait vraiment.
On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais avant, j'aimerais quand même ouvrir les questions au public. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions...